On va faire un petit peu de ménage sur scène parce que hélas, Henrik et Villamatas a loupé son avion. Donc, je vous demande de faire un gros applaudissement de bienvenue à Metin Arditi, avec lequel nous allons parler d'art et aussi d'art contemporain, et même pourquoi d'Henrik et Villamatas, mais en son absence. Donc, Metin Arditi, ça sera un tête-à-tête. Ça sera un tête-à-tête avec nous. Et voilà. Voilà. Donc on va enlever un siège vide, il n'y a rien de pire hein, qu'un siège vide sur scène. Voilà, parfait. On l'a. Alors il est navré, il a loupé son avion. Il y a des Espagnols un peu distraits. Il en fait partie. Bah, je commence quand même par vous recommander la lecture de son nouveau livre. Parce que je sais que certains sont évidemment venus pour confronter les deux visions de l'art qu'ont Henrik et Villamatas et Metin Arditi. Donc ça ne nous empêchera pas de parler aussi de manière totalement indirecte de Marienbad Electric. Marienbad Electric, c'est un dialogue avec une artiste contemporaine qui commence une œuvre, une exposition au Centre Pompidou le 22 septembre. Et puis depuis quelques années, Henrik Villamatas se passionne pour l'art contemporain. Il avait écrit l'année passée un livre sur la Documenta de Cassel. Et ce qui est intéressant, c'est que Metin Arditi, il parle beaucoup d'art, il parle beaucoup des beaux-arts, il parle beaucoup de peinture, mais quelque part, ça s'arrête à Braque et Picasso. Alors, l'art contemporain, moi, ça m'intéressait beaucoup de les entendre parler d'art contemporain. Ensemble, on va pouvoir parler d'art contemporain aussi. Parce que Metin Arditi, lui, il est là pour Juliette dans son bain. Juliette est parue il y a déjà quelques mois, donc je pense que vous êtes nombreux à l'avoir lu et à avoir un avis et sans doute des questions sur le livre. On va ouvrir évidemment après un petit moment de discussion à deux, la discussion à toute la salle. Et puis Juliette dans son bain, il y a de l'art, puisque ça raconte l'histoire d'un homme d'affaires, Ronald Candiotis, passionné d'art, dont la vie bascule lorsque sa fille se fait enlever. Puis Juliette dans son bain, c'est le titre d'un tableau, même de deux tableaux, qui au début du roman, il fait don à des musées. On ne sait pas si c'est le don qui déclenche l'enlèvement de sa fille, mais enfin, pour ceux qui n'auraient pas lu, je ne vais pas aller plus loin, pas de spoiler, même en littérature. Mais effectivement, ces deux tableaux sont peints, l'un par Braque, l'autre par Picasso, ils portent le même nom. Alors, votre intérêt pour l'art contemporain, est-ce que vous êtes par exemple déjà allé à la Documenta de Cassel pour reprendre un des thèmes que Henrik Villamatas avait abordé? Vous et l'art contemporain, ça fait deux ou pas?
Alors, par rapport à... Bonjour, d'abord. Par rapport à l'art contemporain, j'ai évidemment un lien assez fort. C'est-à-dire que dans une vie précédente, j'étais financier.
Mais parle-t-on encore d'art, là? On sait
précisément
pas,
lorsqu'on parle d'art contemporain, j'ai quelques réserves. Donc, voilà, je commence par dire une aigreur.
Vous voulez dire que l'art contemporain se résume à une histoire d'argent?
Je ne rentre pas dans ce genre de débat. J'ai été exposé à l'art contemporain. J'ai visité un certain nombre d'expositions. J'étais à Venise, chez Monsieur Arnault, à la Dogana, dans son palais. Voilà. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de débat.
Oui, ça ne vous fait pas plaisir d'être à Venise, à la Dogana de...
Disons, ce qui ne me fait pas plaisir, parce que je suis quelqu'un de très susceptible, c'est d'être pris pour un idiot. Donc voilà, mon rapport à l'art contemporain est quand même, disons, assez clair. Je vous dis, j'ai un passé de financier, je sais qu'il y a un grand marché, il y a des grandes foires, il y a des gens qui se précipitent là-dedans, dans un propos peut-être artistique, peut-être narcissique, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas mon monde du tout.
Je vous propose de rester dans la thématique prévue, qui est le dialogue entre les différentes formes d'art, et notamment le dialogue entre l'art de l'écrivain, l'art de l'écriture, et l'art de la peinture, l'art des beaux-arts, et la création visuelle. La peinture apparaît dans plusieurs de vos romans. Les tableaux et les peintres sont des sources d'inspiration. L'imprévisible, Turquetto. J'ai l'impression que ce micro marche une seconde sur deux, mais pourquoi ? Est-ce que parce que vous voyez des parentés entre l'écriture et les beaux-arts, ou est-ce que simplement la peinture vous fascine avant même d'avoir commencé à écrire ?
Non. Je vois bien entendu des parentés extrêmement fortes. À mes yeux, l'art est une manière irremplaçable, incontournable, pour l'homme de faire connaissance avec lui-même. Ce processus est d'abord évidemment une source de plaisir. Quand on a un beau tableau devant soi, on est conforté, on ressent une chaleur. Mais ce processus est infiniment complexe et je dirais il a une dimension de ruse, parce qu'au fond, à travers l'art, on fait connaissance avec soi-même, et cette manière que nous offre l'art de nous aborder nous-mêmes est infiniment douce, parce que lorsque l'on voit un personnage, que ce soit sur un tableau, que ce soit au cinéma, au théâtre, au ballet, évidemment, ce que l'on cherche, c'est soi-même. Mais en même temps, on a le loisir de pouvoir se dire « Mais lui, ce n'est pas moi. » Et du coup, ce personnage, et en particulier un personnage de roman, on peut participer au dévoilement de ces zones les plus sombres de manière moins douloureuse que s'il s'agit de soi-même. Et cette façon de se contourner par le biais de l'art est, je crois, dans la vie, une source de compréhension de soi, une source de dialogue avec l'autre qui est absolument irremplaçable, à la fois par sa douceur et son efficacité. Le roman se situe tout à fait dans cette ligne, et je dirais que la spécificité du roman, c'est qu'il est tout au bout de la flèche. Je m'explique. Tout d'abord, dans les différentes formes d'art, vous avez, par exemple, la musique, qui est souvent, je ne veux pas faire une comparaison avec l'art contemporain et la musique contemporaine, mais je pourrais, j'ai une expérience de musique classique, romantique et contemporaine quand j'étais pendant longtemps président de l'orchestre de la Suisse romande, je pourrais dire ou partager aussi des sentiments. Oublions cela. La musique, c'est typiquement une forme d'art bienfaisante et je dirais sans aucune controverse. À partir du moment où on introduit la parole, évidemment, ça change. Parce que là, le dévoilement commence. Le théâtre, évidemment, implique la parole. Au théâtre, il y a des personnages, on les regarde, on s'y identifie. Ce qu'il faut dire, c'est que le théâtre, que j'aime profondément, hein, c'est vraiment une forme sublime pour moi d'art, il y a entre le théâtre et le roman deux ou trois petites différences essentielles. C'est-à-dire que lorsqu'on est au théâtre, comme par exemple, ici c'est une salle de théâtre, on est au théâtre, on n'est pas seul, on est entouré, ça dure relativement peu, il y a souvent un entr'acte, on est quand même relativement protégé. Lorsqu'on lit un roman, on le lit seul, par essence, hein, par définition, ça dure plus longtemps. Et c'est aussi l'occasion, malgré tout, d'un approfondissement plus poussé. Pour autant, bien sûr que la qualité du texte que l'on lit permette cet approfondissement. n'importe quel texte n'offre pas l'opportunité. Mais disons, toute chose étant égale, lorsque l'on va assister à une pièce de théâtre, on est quand même relativement protégé. Lorsqu'on lit un roman, on est seul, ça prend plus de temps, l'approfondissement est plus élaboré. Et c'est là, évidemment, dans ces circonstances-là, où l'on s'approche le plus de soi-même. Donc toutes les formes d'art, finalement, ont un propos qui est identique, c'est de permettre au spectateur ou au lecteur de mieux se saisir, de mieux s'accepter, et à partir de là, d'être une meilleure personne, dans le sens où si on s'accepte mieux, si on se connaît mieux, on est beaucoup plus fort, on est plus à même de dialoguer avec autrui. Voilà en quoi toutes les formes d'art sont, je crois, des mouvements dans le même sens, avec des variantes dans la capacité d'approfondissement qu'elles offrent.
Est-ce qu'un tableau, à vos yeux, raconte une histoire autant qu'un roman le fait ?
Je crois que oui. Et moi, en fait, pardonnez.
Parlez-nous de votre expérience, justement.
Voilà,
de votre...
mon expérience. Alors, dans Juliette, dans son bain, les deux tableaux sont des tableaux que j'ai imaginés, n'est-ce pas ? Le tableau de Braque et de Picasso sont des tableaux fictifs. Mais j'ai écrit un texte, un livre, il n'est pas bien épais, qui s'appelle La chambre de Vincent. Et La chambre de Vincent, ce n'est pas un roman, c'est une chronique de mes années d'enfance, quand j'étais en internat, j'étais 11 années en internat, très loin de ma famille qui était en Turquie, surtout à cette époque où la Turquie était beaucoup plus éloignée de la Suisse qu'elle ne l'est aujourd'hui, pour des raisons de développement technologique. Sur ce tableau de Van Gogh qui décrit de manière tellement touchante sa solitude et sa détresse à Arles, j'ai écrit un livre. J'ai par la suite écrit un autre livre sur mes années d'internat, mais qui est lui un roman beaucoup plus épais, loin des bras. Et je pense que le roman est à peu près 5 ou 6 ou 7 fois plus épais que l'essai, que le récit. Et pourtant, je ne suis pas sûr que le roman soit plus émouvant que le récit. Le récit est très court et il y a cet accrochage que j'ai avec cette toile de Van Gogh. Et peut-être que je mentionne d'autres autoportraits, des autoportraits de lui à un moment donné dans le récit, je m'en souviens. Mais c'est vrai que cette toile... qui était pour moi une sorte de bombe.
Elle vous parlait, clairement.
Complètement. Elle racontait ma vie.
Aujourd'hui, quand vous êtes justement devant des tableaux, quand vous parcourez des musées, des galeries ou des livres d'art, justement, ces tableaux vous racontent des histoires. Est-ce que ils vous parlent plus à vous qu'à nous parce que vous êtes écrivain et que donc vous avez peut-être une imagination plus galopante, importante. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un tableau nous raconte une histoire, qu'il s'anime ?
Alors, vous avez dit, ça peut être dans des galeries, ça peut être dans des musées. Je voudrais ajouter un cas de figure, ça peut être aussi dans des églises. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des circonstances. D'abord, je dois dire quelque chose. C'est que, d'une manière générale, écrire un roman, c'est quelque chose de très difficile. Parce qu'écrire un roman, c'est quoi ? C'est capter, c'est lire le cœur des hommes. Et c'est très difficile. Et donc, ça nécessite un véritable effort, un effort d'artisan, de constance, de patience, d'entêtement à essayer de comprendre qui sont ces personnages que l'on crée. On crée un personnage, ce n'est pas pour ça qu'on le connaît. On fait des enfants, on ne les connaît pas forcément. Et du coup, ça nécessite vraiment un engagement de longue haleine. Ce qui veut dire que lorsque j'écris un livre et que je visite un musée pour voir une toile en particulier, ou que je visite une ville parce que je dois faire des repérages dans cette ville, mon rapport à la toile ou à la ville est d'une toute autre violence que si je suis touriste. J'étais en Italie, en Ombrie, je devais faire des repérages pour un livre qui s'appelle « L'imprévisible ». J'étais à Assise, j'aurais dû aller voir l'église d'Assise avec les fresques, où il y a les fresques du Giotto. Un jour, en fin de journée, je n'ai pas réussi et j'ai dû y aller pour des questions d'horaire à l'ouverture le lendemain matin. Le destin avait bien fait les choses parce que, en fin de journée, j'aurais été dans une foule. À l'ouverture, j'étais absolument seul. Il y avait un prêtre. Mais j'étais absolument seul, c'est tôt le matin. Et je me suis retrouvé devant les fresques de Giotto. Et parmi ces fresques, il y a une série de 24 qui sont de part et d'autre de la nef et qui racontent la vie du saint, donc la vie de saint François. Et devant ces fresques, moi qui ne suis ni croyant, ni pratiquant, ni religieux, ni rien, les larmes me sont venues, mais pas juste comme ça, au bout des cils. J'ai été pris par une émotion vraiment spirituelle, parce qu'il y avait, dans la façon qu'avait Giotto de décrire le saint, une telle humanité, une telle simplicité, un tel amour de l'autre. Je me souviens en particulier, est-ce que c'était la 15e fresque, parce que on voit la vie du saint de gauche jusqu'à droite et il y en a 12 d'un côté et 12 de l'autre. Il y a une en particulier où il a peint saint François qui prêche aux oiseaux. J'étais bouleversé par cette image du saint qui est dans une démarche d'une telle humilité que même aux petits oiseaux, il prêche. Je trouvais ça magnifique. Donc, évidemment, tout le monde n'est pas Giotto. Tout le monde n'est pas Van Gogh. Mais c'est vrai que de temps en temps, une toile, et là, en l'espèce, une fresque, peut raconter une immense, très belle et très profonde histoire.
Qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous sont davantage émus, touchés par de la peinture, d'autres sont plus émus ou touchés par de la littérature ou de la musique? Faites-vous peut-être une hiérarchie du pouvoir d'émotion des différents arts?
Moi, je suis ému par tout, vraiment, et très profondément. Très intensément. C'est pas la même chose, hein, d'être intensément ému, ça peut passer vite, profondément, ça reste. Je suis vraiment ému absolument partout. C'est vrai qu'il y a des spécificités aux formes d'art. Et comme je le disais tout à l'heure, en particulier concernant la forme écrite, c'est évidemment c'est un dévoilement qui peut être très cruel. Alors que lorsqu'on écoute de la musique, même s'il s'agit d'un morceau qui est plutôt mélancolique, une symphonie de Tchaïkovski, il y a des moments très très beaux, mais disons, on n'a quand même pas à ôter tous les voiles. C'est pas la même chose. Et ça ne déclenche pas les mêmes appréhensions.
Arrivez-vous à expliquer pourquoi la peinture tient une place si importante dans votre vie d'auteur de roman? Le Turchetto plonge à la fois dans l'œuvre et dans le destin d'un peintre en partie vénitien. L'imprévisible, le point de départ, c'est le mystère autour d'une partie d'un tableau. Celui-ci, Juliette dans son bain, au cœur, il y a ces deux tableaux. Qu'est-ce qui fait que dans votre vie de romancier, la peinture, les tableaux, voilà, est-ce que c'est simplement parce que c'est un matériau follement romanesque ou est-ce qu'il y a une explication plus profonde, plus intime, plus personnelle?
Alors, il y a évidemment une part que je n'arrive pas à expliquer, parce que c'est vraiment très très fort. Mais pour être tout à fait honnête, moi je n'avais absolument pas, à l'égard de la peinture, un sentiment de proximité.
Vous voulez dire pas, avant pas de tout. Commencer à écrire hein.
Pas du tout. J'ai une femme qui est historienne de l'art. Je me moquais toujours un peu d'elle qui va tout le temps dans les musées. Moi, je restais plutôt dans les bars d'hôtel. J'avais toujours un grand attachement pour la sculpture, toujours, mais la peinture, pas du tout. Et puis, il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, c'était que j'ai croisé dans mon travail d'écriture. Van Gogh. Et là, ça a bouleversé tout. Et j'ai écrit d'abord La chambre de Vincent, ensuite Dernière lettre à Théo. J'ai aussi écrit un troisième texte qui a été joué, qui s'appelle Au nom du Père, où je me suis mis là dans la peau du père de Van Gogh, parce que vous savez...
Mais donc Théo étant aussi son frère...
On accable le père de Van Gogh de tous les délits et de tous les péchés du monde, puisque son fils était un génie et que lui ne l'a pas reconnu. Et j'essaye, dans ce troisième texte, de me mettre à la place du père. Et que fait un père quand il a un fils qui est insupportable, quand lui-même est un pasteur hollandais du 19e siècle, de la fin du... C'est très, très difficile de juger quelqu'un dans ces circonstances. Et je me mets, alors que j'ai défendu corps et âme, et au prix de combien de litres de larmes Vincent Van Gogh dans mon écriture, là, j'essaye de me mettre dans la peau de son père. Donc, il s'est passé quelque chose avec Van Gogh. Et quand j'ai terminé Dernière lettre à Théo, j'ai voulu continuer. Et je me sentais totalement incapable de poursuivre, à la fois dans la peinture de Van Gogh, qui m'avait complètement vidé, et... je ne voulais pas non plus me cantonner dans, disons, dans la période qui l'a suivie, c'est-à-dire les impressionnistes. Et puis, je suis allé un jour chez Payot, à Genève, et puis j'ai cherché, j'ai dit je vais choisir un peintre, de toute façon j'y connais rien, et je vais choisir un peintre sur, bon, il faut qu'il soit vaguement connu quand même, mais pour pouvoir aussi accéder à de la documentation, mais je vais le choisir sur la base d'un seul critère, c'est que je vais choisir une monographie, enfin un livre important qui lui est dédié, sur la base du livre qui me paraîtra le plus complet, le mieux fait. J'étais impatient, j'étais dans une sorte de vide. Après avoir terminé Dernière lettre à Théo, j'étais impatient de me lancer dans un autre travail, et j'ai trouvé, j'ai regardé, il y avait des livres sur Léonard de Vinci, sur Raphaël, sur l'un, sur l'autre, et le livre qui m'a paru le mieux fait, extrêmement documenté, avec beaucoup de textes, beaucoup d'images, et tout ça, c'était un livre sur un peintre qui n'est pas le plus profond des peintres, enfin, qui était un très très grand maniériste, qui était Bronzino. C'est un livre d'un certain Brock. Et donc je l'ai pris parce qu'il me paraissait à même de me mener aussi loin que...
Mais la peinture vous inspirait aussi, les tableaux vous plaisaient.
Alors, bien sûr, elle m'inspirait, mais en même temps, je peux dire que plutôt que Bronzino, si j'avais eu à choisir, si j'avais trouvé un livre, j'aurais... plutôt pris, un Lippi ou Piero della Francesca, des peintres dont la spiritualité est beaucoup plus forte que celle de Bronzino. Mais quand même, j'ai pris Bronzino, puis ça a donné l'imprévisible. Donc ça, c'est parti comme ça, c'est parti d'une relation extrêmement violente et très, je dirais, de grande, grande fraternité, si j'ose utiliser un terme pareil sans paraître prétentieux, avec Van Gogh, avec sa vie, avec sa peinture telle qu'elle représente sa vie, avec cette peinture tellement forte, mais aussi tellement sobre, où tout est représenté à hauteur d'homme, n'est-ce pas? Van Gogh ne regarde pas les gens de haut, il ne les regarde pas de bas. Il est dans la dèche la plus totale, mais il garde un amour de l'autre et une dignité d'homme absolument confondante. Et donc, il y avait ce rapport, et puis ensuite...
Et ce qui vous intéresse, c'est autant finalement l'œuvre elle-même que la vie des peintres dont vous vous emparez. On voit pour Van Gogh, finalement, vous parlez plus de sa vie familiale, intime, son destin tragique. C'est pareil pour le Turquetto, où finalement il est autant question de ses malheurs, de son exil, de sa fortune, de ses revers de fortune, que de sa création. Les peintres ont une vie romanesque ?
Les peintres ont une vie, c'est-à-dire que ce qu'il y a, à mes yeux, d'extraordinaire chez Van Gogh, c'est précisément parce que pour un homme qui a vécu ce qu'il a vécu, qui a passé par là où il a passé, eh bien, cet homme, il avait faim. Il a vendu un tableau de son vivant. Un tableau, il avait faim, il mangeait ses peintures, il devenait fou. Et avec la vie qu'il a menée, cet homme avait sur le monde et sur les gens un regard d'une humanité lumineuse et généreuse. Si on ne connaît pas la vie de Van Gogh, on peut se dire « Ah, mais voilà ces tableaux magnifiques de gens qui sont dans les champs, qui cueillent, qui font les vendanges, etc. » c'est le propre de quelqu'un qui a été toute sa vie adoré, entouré, cocolé. Eh ben non, eh ben c'est pas ça.
Donc vous nous aidez à voir derrière l'image.
C'est évidemment du fait de cette expérience vitale de Van Gogh que sa peinture est tellement touchante.
Où en êtes-vous aujourd'hui de votre rapport à la peinture? Parce que on voit dans ce dernier livre, Juliette dans son bain. Alors certes. Vous parlez de deux peintres, Braque et Picasso, ayant existé. Vous faites allusion d'ailleurs à quelques semaines d'un été de l'année...
1912 et 1913.
Voilà, où ils se sont effectivement trouvés ensemble à Lille-sur-la-Sorgue.
En 12, ils étaient ensemble, en 13, il n'y avait que Braque.
Voilà. Oui. Mais ensuite, vous inventez le tableau qu'ils sont censés avoir peint. Donc du coup, on peut faire ça dans un roman. On parle de peintres ayant existé, de leur histoire autobiographique réelle, mais hop, on leur invente comme ça des tableaux. Ça, du coup,
c'est quand même vachement plus pratique.
Non, il a l'air très bien, ce tableau. Décrivez-nous Juliette dans son bain. Décrivez-nous le tableau que Braque a peint dans votre tête.
Mais il suffit d'aller les voir au musée d'Orsay, où ils ne sont pas, justement. On m'a demandé ce matin, mais est-ce qu'ils existent? J'ai dit, oui, ils existent dans mon livre. Ben voilà, c'est ça la littérature.
Décrivez-les-nous. On voit quoi sur ce tableau? Alors bon, il y a sans doute Juliette et...
Il y a, moi je les ai devant les yeux. Hein. Donc il y a le
tableau... Aidez-nous.
Le tableau de Picasso, c'est donc un tableau peint à la mode cubiste. Il est dans les tons... beige clair, ocre, gris, ce sont des petits carrés qui décrivent de manière non figurative Juliette dans son bain. Le tableau de Braque, alors ce qui s'est passé, c'est que, alors ça c'est vrai, que Braque et Picasso se sont retrouvés, enfin c'était planifié qu'ils aillent passer l'été ensemble à Sorgue, chacun avec sa compagne, chacun dans sa villa. Tout ça est assez bien documenté. Du reste, cette histoire a commencé avec la lecture d'un article en histoire de l'art sur cette période. Et ça m'avait frappé que ces deux-là vivaient une véritable vie de bourgeois, d'artisans, de grands travailleurs, travaillaient ensemble jour et nuit. Et ils ont mis au point en 12 le cubisme. Ils l'ont fondé à Sorgues l'été 1912. Et donc j'imagine que Picasso un jour va seul à Avignon, à la rue Horace Vernet, Joseph Vernet, acheter des couleurs. Et alors, il y avait un marchand de couleurs à la rue Joseph Vernet. J'imagine que ce marchand était une marchande et qu'elle venait d'installer à l'étage une baignoire, ce qui était un grand luxe en 1912. Et comme c'était l'habitude à l'époque, les marchands de couleurs avaient avec les peintres des rapports de grande confiance, de grande proximité. C'était avant l'industrialisation de la peinture. Et donc cette jeune femme, Juliette, qui a hérité de ce magasin, demande à Picasso de la peindre. Alors il la peint à la mode cubiste. Une année après, Braque va à Sorgues sans Picasso, ça c'est vrai. Il retourne au magasin, ça c'est vrai, mais dans le livre. Et la belle Juliette lui dit, écoutez, peignez-moi dans mon bain, mais les petits carrés, les petits cubes, ça suffit, peignez-moi comme une vraie femme. Et donc lui, il la peint comme une vraie femme, à la manière fauve, il retourne à la manière fauve, c'est-à-dire qu'il met des couleurs très violentes, des grands aplats, du vert, du rouge, du bleu, du jaune, et ça donne un tableau absolument éclatant de violence, de beauté, mais sur lequel Ronald Candiotis, le protagoniste, arrive à voir un portrait de femme, et ce portrait de femme lui rappelle énormément la seule femme qu'il ait vraiment beaucoup aimée dans sa vie, à l'exception de sa fille qu'il aime beaucoup, qui est une jeune femme, enfin c'est un amour tout à fait paternel, il n'y a rien à de cacher là-dessous. Et cette femme, c'est une femme avec laquelle il a passé 3 nuits, en tout et pour tout, 30 ans plus tôt, et il la cherche, et donc il donne ces deux tableaux pour brouiller un petit peu les cartes, et en même temps pour espérer que cette femme s'annonce, se reconnaisse. C'est pas elle qui a été peinte, puisque ça ne colle pas du tout, il y a 60 ans de décalage entre le moment où la peinture a été faite et le moment où cet homme a connu cette femme, mais il espère qu'elle va se dévoiler.
À force d'imaginer des tableaux, ça ne vous donne pas envie d'essayer de les peindre vous-même? Est-ce que vous avez ce talent caché aussi?
Je ne sais pas tenir un crayon. Je ne sais pas tenir un crayon. Pour écrire, j'arrive.
Oui, pour écrire. Vous n'écrivez pas à l'ordinateur. Voilà. Non, pas de talent caché de peintre.
Alors s'ils sont cachés, ils sont vraiment très cachés parce que ouais. Non, c'est totalement sans espoir. J'étais toujours nul en dessin, je le serai toujours, c'est pas grave.
Ouais. Justement, votre héros Candiotis, je vous cite sur quelques phrases qui en dit long aussi sur son rapport à la peinture. Un extrait de Juliette dans son bain. Il disait « salut » à voix basse à chacune des toiles qu'il aimait, s'arrêtait devant l'une ou l'autre, qui avait quelque chose de particulier à lui dire. Ici, un Amiette, là, un Hodler, là, un Segantini, qui voulait se raconter. À lui, il n'y a personne d'autre. Il se mettait alors dans une sorte de garde à vous, regardait la toile en souriant, fou de joie d'être ainsi interpellé. Alors, c'est un passage où vous racontez votre Candiotis et se retrouve lui-même, dans le fond, enfant en Suisse. Et donc là, effectivement, il est dans une visite de groupe, de classe, dans un...
Non, il est seul. Il est seul parce que le samedi après-midi, donc il est en internat.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il voit que des peintres suisses parce que c'est dans un musée.
Voilà, c'est à Lausanne. Voilà. C'est à la place de la Riponne. Oui. Musée cantonal des Beaux-Arts, deuxième étage. Ouais. Et il va avec la dame qui est la responsable des enfants, qui est une dame qui marche avec une canne. C'est Irène Kowalski, c'est un personnage qui est déjà dans Loin des bras.
Oui, ce récit où vous racontez des années d'internat. Voilà. Mais dans le fond, ce passage montre effectivement une relation. Les tableaux lui parlent à votre
héros. Ah
oui,
à lui, c'était absolument pas mon cas. C'était absolument pas mon cas. Oui, les tableaux, il est... Alors, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Parce que cet enfant qui est vraiment très doué, ça c'est la partie autobiographique. Il est pas à l'aise avec les copains du pensionnat quand ils vont le samedi après-midi ou le dimanche au match de foot ou au cinéma. Il est pas à l'aise dans son groupe. Il est absolument pas autiste, pas du tout. C'est un garçon tout à fait normal. Simplement, il a une certaine réserve. Il est plutôt timide. Et c'est vrai qu'il a une grande sensibilité. Et c'est vrai aussi que le fait de se trouver sans les autres, avec cette dame qui est absolument adorable et qui l'accompagne le samedi après-midi au musée, fait qu'il se sent aussi lui-même appelé à tirer parti de cette situation où il est seul. Il faut qu'il en fasse quelque chose de sa solitude, parce que s'il n'en fait rien, la solitude lui sera honteuse. Et lui, il en fait une solitude glorieuse. Et du coup, lorsqu'il est devant un tableau, évidemment, ça commence comme ça, c'est qu'il... La première fois qu'elle l'amène au musée, donc, la toile dont je vais parler existe, celle-là, ça s'appelle « Le bain », elle est de Valoton, c'est une toile absolument magnifique, mais comme très souvent dans les toiles de Valoton, elle est assez austère. Il y a une certaine dureté chez Valoton. Et c'est une toile absolument magnifique, et il voit au premier plan une femme nue qui porte contre son sein un petit basset, qui a les cheveux peignée en natte à la russe, comme sa mère qui était russe blanche, et qui était aussi assez froide avec lui. Et du coup, ça crée un premier choc. Et au moment où il voit cette toile, tout à coup, il a le sentiment de retrouver le parfum que portait sa mère, qui était une marque très connue à l'époque, c'était Joy de Jean Patou. Et l'espace d'un instant, il retrouve, en voyant la toile, l'odeur du parfum. Et ça le bouleverse, et ça ouvre en quelque sorte sa sensibilité. Et du coup, quand il visite les autres pièces du musée, les autres tableaux, que ce soit de Valoton ou des autres, il est déjà dans un état de communication très avancé. Et puis, semaine après semaine, évidemment, il prend goût à ce rapport qui est un rapport exclusif. Et il y a une compensation chez cet enfant de la forme de rejet tacite qu'il ressent chez les autres. Parce qu'il n'est pas... Il deviendra, à un moment donné, toute son intelligence, il va la mettre à devenir un coureur de fond. Mais jusque-là, il n'est pas du tout sportif. Et s'il choisit à un moment donné la course de fond, c'est précisément parce qu'il n'y a aucun des autres qui ne fait la course de fond. Parce que ça nécessite une grande patience et un grand travail. Et lui, il est dans ce cheminement. Donc en attendant, il fait quelque chose. Il saisit l'occasion de ses visites. Et puis évidemment, ça ouvre des ports et il sera toute sa vie sensible à la peinture.
Si on s'arrête encore deux secondes dans les coulisses de la création, est-ce qu'on crée un roman comme on crée un tableau? Est-ce que tous les créateurs, qu'on soit peintre ou qu'on soit romancier, ont la petite fabrique à art, fonctionne la même chose? On pompe le monde, on l'interprète, on le redonne ensuite pour... des lecteurs ou des spectateurs?
C'est vraiment très difficile pour moi de répondre à cette question, parce que un roman, franchement, c'est bien deux ans de travail. Un tableau, Picasso et Van Gogh, les derniers jours de sa vie à Auvers-sur-Oise, Van Gogh, c'était une toile par jour. Picasso, à la fin de sa vie aussi.
Oui, mais ce sont des géants. Il n'y en a qu'un sur 100 000, comme ça.
Oui, mais néanmoins, pour peindre un tableau, okay, on peut dire qu'il ne le fait pas en un jour, il le fait en deux, en trois, en quatre, en douze, en quinze. Mais bon, ça va s'arrêter là. Tandis qu'en 15 jours, on fait rien pour un roman. Donc, il y a quand même là une différence. Je pense que cette contrainte de l'investissement massif que l'on fait en se lançant dans un roman fait que l'on est quand même... que l'on procède à une grande discrimination avant de se lancer. Parce que se lancer dans un roman, ça veut dire 2 années, en tout cas, de compagnonnage avec des sujets, avec des thèmes, avec...
des personnages.
Voyez, par exemple, dans mes activités annexes à l'écriture, moi, je m'occupe d'une fondation qui s'appelle les Instruments de la Paix, qui favorise l'éducation musicale en Palestine et en Israël, auprès d'enfants arabes et juifs. Et j'ai beaucoup, beaucoup lu sur cette région, sur la période en particulier, disons, les 30-40 premières années du XXe siècle, c'est-à-dire depuis les premières arrivées d'immigrants jusqu'à 48, la création de l'État d'Israël, dans toute cette période extrêmement douloureuse et intense. Et je me suis dit à plusieurs reprises, bon, alors maintenant c'est bon, je commence un roman là-dessus, j'y vais souvent, là j'y vais mardi prochain, et j'avais des résumés, des chartes familiales, j'avais tout, des photos, des carnets de notes, mais des piles de carnets, eh bien, jamais je n'ai réussi à vraiment m'y mettre. Parce que chaque fois, je me suis dit, cette situation est tellement douloureuse, j'y vais déjà pour d'autres raisons. En plus, ajouter ce compagnonnage, être dans ce bain non-stop pendant si longtemps, c'est vraiment trop, et du coup, je ne l'ai pas fait. S'il s'agissait seulement de passer 15 jours ou 10 jours à peindre un tableau, je l'aurais fait probablement à plusieurs reprises, à des périodes différentes de ma vie. Mais là, en l'espèce, c'était trop. Je n'arrivais pas et je ne voulais pas me mettre dans un tel état de souffrance, parce que quand on connaît la situation comme je la connais, et qu'on voit qu'il n'y a absolument... aucune issue à l'horizon, c'est pas drôle.
Terminons par là où là on a commencé avant de passer la parole au public pour d'éventuelles questions. On dit l'art n'a pas de prix. On parle autant de romans que de peinture. Alors l'art vraiment n'a-t-il pas de prix ?
Oh, bien sûr qu'il y a un prix. Évidemment, on peut dire j'ai suffisamment vécu une vie d'homme d'affaires pour savoir qu'un prix est en règle très générale un équilibre entre l'offre et la demande. Ma foi, on ne veut pas non plus casser le système dans lequel nous vivons, c'est comme ça, et puis voilà, point final. S'il y a pour des tableaux de peinture contemporaine des sommes tout à fait délirantes qui s'échangent, tant qu'on ne me demande pas à moi d'y participer, ça ne me gêne pas. Le prix de l'art, à mon sens, doit d'abord permettre à l'artiste de vivre. Ça, c'est la première des choses. Je me suis occupé pendant très longtemps de musique, et en particulier d'un orchestre symphonique. Un orchestre symphonique, sans aide, ne peut pas fonctionner. C'est impossible. C'est-à-dire que le budget d'un orchestre, comme par exemple l'orchestre de la Suisse romande, qui est assez typique des orchestres symphoniques européens, 112 musiciens et une quinzaine de personnes à la technique et à l'administration. Un concert, la caisse, c'est-à-dire ce qu'on appelle la jauge d'un concert, c'est à peu près 20 à 25% du coût du concert. Le reste, ce sont des subventions ou du mécénat ou du sponsoring. Donc, s'il n'y avait pas ça, les musiciens ne pourraient pas vivre. Il n'y aurait pas d'orchestre. Donc, pour moi, l'art, c'est d'abord permettre à des artistes de vivre de manière décente. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces artistes, par exemple, à l'Orchestre de la Suisse romande, lorsqu'ils sont engagés, ils passent un concours et pour un poste de violoniste toutiste, c'est-à-dire de violoniste de rang, de simple violoniste, il y a peut-être 200 candidats qui viennent d'un tas de pays du monde et celui qui gagne le concours gagne sa place, c'est-à-dire qu'il a véritablement un mérite, c'est un virtuose et il mérite de gagner sa vie. Toute personne qui se déclare artiste ne peut pas forcément prétendre à cela. Et donc, il y aura forcément toujours des gens qui diront « Moi, je suis artiste, je n'arrive pas à gagner ma vie. » Ma foi, c'est comme ça. Mais d'une manière générale, quelqu'un qui fait son travail d'artiste doit avoir le moyen de gagner sa vie. C'est la règle. Alors, bien sûr, il y en a certains qui gagnent des montants tout à fait stratosphériques. Voilà, j'en parle par exemple dans Juliette dans son bain. Il y a une sculpture en acier de Jeff Koons. Vous savez, il a construit ses chiens comme des ballons. Il avait une exposition à Bâle à la fondation Beyeler il y a 2 ou 3 ans. J'avais été la voir. Que vous dire, je veux dire, c'est un super champion du marketing, il aurait fait carrière chez Coca-Cola comme rien, il a choisi l'art, voilà, ça se vend à 35, 40, 50 millions d'euros.
Alors, ce qui est bien, c'est que Juliette dans son bain coûte beaucoup moins cher qu'un James Koons et qu'un Picasso et qu'il y en a des piles sous la tente. Alors, mesdames et messieurs, la parole est à vous. Si vous souhaitez poser une question, faire une remarque à Matin Arditi, que ce soit sur le thème qu'on a abordé ou totalement autre chose, levez la main, comme ça le micro vous arrivera. Monsieur, juste.
Oui, bonsoir. Si vous permettez une question peut-être un peu bateau. Vous qui êtes tellement impliqué dans toutes sortes de formes d'art, est-ce que vous mettriez peut-être une certaine graduation dans les émotions qu'on peut ressentir selon les formes d'art, que ce soit
dans la peinture, les émotions, entre quoi et quoi, par exemple?
Élévation peut-être de l'âme, peut-être.
Oui, mais une gradation.
Alors, gradation, au fond, quelle pourrait être selon vous? Si c'est possible,
j'ai pas compris.
Si ça existe, peut-être une gradation dans la supériorité d'un art sur un autre.
Ah, c'est vraiment très très difficile comme question parce que évidemment, qui dit art dit artiste, n'est-ce pas? Donc, étant donné que les arts ont des formes différentes, vous n'arrivez pas à voir le même artiste. Vous comparez une peinture à une pièce de musique, ce sont deux artistes différents. Moi, ce que je crois, c'est que on ne peut pas, on ne veut pas décréter une hiérarchie dans la qualité des émotions. Je ne crois pas. Je crois qu'on peut être absolument bouleversé, même sans rien connaître, et ça c'est quelque chose de très très important, ça nous ramène au tout début de la discussion. Vous savez, quand j'étais président de l'OSR, il y avait des fois de la musique contemporaine, et alors on disait, mais pour que les gens viennent écouter la musique contemporaine, ce qu'il faudrait faire, c'est avant le concert, une petite séance d'explication. Oh non, ouais. Là on est dans des... La raison c'est une chose, l'émotion c'est une autre. Donc l'émotion, même sans rien connaître, que l'on ressent devant un ballet, devant un tableau, devant une sculpture. Je ne pourrais pas mettre de hiérarchie. En revanche, la nature de l'émotion, là, il y a des différences. Mais ce ne sont pas des différences hiérarchiques, ce sont des différences en nature. Et en particulier, lorsque l'on parle d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a le mot. Vous savez, j'ai une fondation, j'en ai dit un mot tout à l'heure, qui s'appelle les Instruments de la Paix, et qui est active au Proche-Orient pour l'éducation musicale. Je n'ai jamais eu le moindre problème, ça marche très très bien, tout fonctionne. Et puis, j'ai voulu développer une deuxième activité. J'ai été obligé, pour des raisons statutaires, de créer une autre fondation qui s'appelle la Fondation Arditi pour le dialogue interculturel, qui fait des échanges d'écriture entre juifs et arabes. Et j'avais une discussion un jour, au moment où je préparais tout ça, avec un homme tout à fait exceptionnel qui s'appelle Sari Nusseibé. C'est un habitant de Jérusalem, c'est une grande famille, arabe bien sûr et musulmane. Sari était président, il n'est plus maintenant, de l'université Al-Quds de Jérusalem. Grand philosophe, type formidable. Et on discutait de comment lancer ce projet. Il devait être dans le jury. Finalement, lui n'est pas venu dans le jury. Il y a eu d'autres personnes. On disait comment lancer ce projet, comment appeler ce projet. Et je me souviens, on prenait le petit déjeuner à Jérusalem. Et il me dit, surtout, ne mets pas le mot paix. Tu vas avoir des problèmes. Donc, ça, c'est typique de tout ce qui implique le mot. Ce qui implique le mot soulève des problèmes. Et du coup, il y a du grabuge. Ça ne veut pas dire que l'émotion est d'un ordre supérieur ou inférieur. Mais ça veut dire que latéralement, on passe de quelque chose qui peut être extrêmement intéressant à quelque chose qui peut être extrêmement dérangeant. Alors que rarement, si un tableau est dérangeant, on ne le regarde pas, enfin, on passe au suivant. C'est pas si grave. Avec les mots, tout ce qui implique le mot, tout ce qui dévoile, suscite des complications. Voilà, ça crée des complications.
Merci. Une autre intervention ? Voilà. Bah, si ce n'est pas le cas, merci beaucoup de votre présence, mesdames et messieurs. Metin Arditi, merci beaucoup pour cette discussion sur l'art, la peinture. Voilà.